Femme novatrice.
Femme novatrice.
Femme novatrice avec Sophie Nanin.
Bonjour et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir à Femme novatrice les échos de leur challenge. Florence Ducroquette et Cécile Clément, fondatrices de l'association Champ d'Action, située à Toulouse pour la protection de notre écosystème. Bonjour Florence, bonjour Cécile.
Bonjour Sophie.
Ravie de vous accueillir parce que c'est vrai que l'association fête ses 8 années, des actions, là vous allez nous en parler, plutôt nombreuses, investies, amplifiées et beaucoup de bénévoles qui sont rattachés auprès de vous. Mais c'est d'avoir quand même cette historique et afin que les auditeurs comprennent, vous étiez venu il y a 2 ans et là je veux absolument qu'on puisse voir qu'aujourd'hui l'environnement qui est un mot clé et un environnement fort forcément et que vous puissiez être positionnées pleinement comme 2 actrices très engagées sur le sujet. Donc là, écoutez, je ne sais pas, laquelle des deux vous commencez?
Je vais présenter un peu l'association dans ses chiffres
sûr.
Clés.
Du coup. Complètement, au contraire.
Alors nous, on protège les milieux naturels en retirant les déchets qu'on peut y trouver. Mm. Voilà, donc c'est plus de 565 actions depuis 8 ans. C'est 25 000 personnes qui ont été mobilisées soit sur des actions de terrain, soit sur des ateliers. C'est plus de 420 000 kilos de déchets. Donc 420 tonnes de déchets. Et on est à 260 km de berges nettoyées. Ce qui a changé peut-être l'évolution aussi, c'est par rapport justement à ces 260 km, on s'est étendu le long des berges de la Garonne, et pas seulement, mais aussi des rivières. Et maintenant, on va aussi dans les Pyrénées et la naissance de la Garonne, donc en Espagne.
Ah oui.
Et il y a aussi maintenant alors le mégot qui devient aussi
ça vous allez en parler effectivement tout à l'heure parce que c'est vrai que ça a été une action forte entendue.
Oui.
Vous arrivez effectivement à rassembler.
Oui.
Qui est pas une opération unique, qui est au contraire.
Justement il y a une opération coup de poing en fait qui est de faire un état des lieux, une photographie d'un instant T. Et on a ramassé 400 000 mégots en 2 heures. Et en tout, peut-être maintenant, toutes les actions qu'on a menées, on doit être à 5 millions de mégots à peu près.
C'est de la folie. Et par rapport à cela, justement, alors là, direct, je vais sur le sujet. Toute génération était présente sur cette opération.
En fait, on a voulu, par rapport aux années précédentes, cartographier vraiment toute la ville. Donc on a vraiment 200 jeunes en service civique qui nous aident et qui nous suivent tous les ans. Mais on y a mis aussi beaucoup d'entreprises. On a travaillé avec les hôpitaux, avec l'INSERM, avec le CHU, avec des entreprises privées pour cartographier vraiment toute la ville et se dire qu'il n'y avait aucun endroit il y a aucun endroit à Toulouse où vous ne trouverez aucun mégot. Il y en a absolument partout. Et l'impact de 400 000 mégots, il est énorme. Les gens, ils nous regardent avec des énormes yeux, mais on s'en fout de 400 000 mégots parce que l'impact d'un seul mégot, c'est une bombe atomique. Du coup, quand on fait la multiplication 400 000 fois 2500 molécules chimiques, le chiffre il devient vertigineux.
Non, mais ça me va très bien votre mot sur on s'en fout. Bon, là-dessus, effectivement, il n'y a pas de conscience encore véritable, mais vous permettez de voir exactement où est-ce qu'on en est, quoi. Mais ce que je trouve génial dans cette évolution tout de même, les hôpitaux, vous dites les entreprises, c'est des acteurs, alors je ne dis pas nouveaux, mais quand même ça s'amplifie. Alors, la crédibilité, légitimité, vous l'aviez déjà, mais j'ai l'impression qu'il y a un effet de levier, là, qui est plus fort que...
Dans quelques jours, on est à l'Oncopole, on fait une conférence pendant 1 heure sur l'écotoxicité des mégots devant les chercheurs. Après, on fait un ramassage, puisqu'on veut essayer, en fait, que l'Oncopole et les sites hospitaliers deviennent les premiers de France véritablement considérés comme zéro mégot. Et pour ça, en fait, on va leur montrer ce que font les Espagnols, puisque les Espagnols ont 15 ans d'avance. Il est interdit de fumer en Espagne, dans tous les endroits où il y a des enfants, dans les hôpitaux et sur les plages. Et du coup, c'est une réglementation qui marche vraiment.
Là, vous m'interpellez, là. Ça, on n'entend parler nulle part. Alors, je ne parle pas de tous les médias, je ne veux pas faire polémique médias, Mais ça, on n'entend jamais parler par rapport à l'Espagne, qu'il y ait effectivement des axes et des, effectivement une ligne de conduite à respecter. Vous pensez que nous-mêmes, du coup, on pourrait faire la, enfin, une approche, une similitude, se rapprocher, créer un cap? Parce que c'est complètement fou que ça soit mis en place et respecté, surtout,
mais surtout,
et compris.
Les Espagnols ne nous comprennent pas, parce qu'on était à l'hôpital Sant Pau, qui est au cœur de Barcelone, qui a une construction de Gaudi. Et il y a des panneaux partout. Il y a des panneaux partout, partout. Énormes panneaux, comme quoi il est interdit de fumer sur le site hospitalier. Et les médecins nous regardaient d'un air halluciné en nous disant « Mais évidemment, on est dans un hôpital. C'est évident de ne pas fumer autour d'une école. C'est évident de ne pas montrer ce geste. C'est choquant pour eux. C'est évident de ne pas montrer, fumer sur la plage, alors que c'est une de leurs ressources principales, le poisson. C'est évident pour eux. Et ils trouvent que, quand je leur pose la question... Ils ne comprennent pas, ils comprennent, oui, pas la question. Ils comprennent.
Et est-ce
pas,
que Jacques Delors, alors là, j'avais vu dans le sujet, qui renouvelle donc sa gouvernance, peut être à l'écoute de ce genre de choses, ou au Compol, et qu'il puisse y avoir une ouverture de jeu différente, ou ne serait-ce qu'aussi à Purpan ou autre, ou dans les autres villes, parce que là, je fais appel à tous les auditeurs qui peuvent entendre ce message. Hein, vous savez très bien, c'est aussi bien à Auch, Cahors, Rodez, bien évidemment aussi Tarbes, mais de pouvoir... interpeller, de pouvoir... parce que là, c'est une action, et j'avoue que je suis choquée.
Mais la
réglementation,
elle se fait déjà en
pas...
France. Il y a énormément de lois qui existent déjà, sauf qu'en fait, elles ne sont pas appliquées, elles ne dérangent personne. Après, nous, on a la chance de bien connaître des responsables RSE de l'Oncopole, du CHU, mm-hmm. et du coup, c'est le contraire, c'est eux qui viennent vers nous. Ce n'est pas moi qui leur ai proposé de faire une conférence, c'est eux qui sont venus nous chercher en nous demandant est-ce qu'on pouvait faire une conférence auprès des chercheurs, est-ce qu'on pouvait aller avancer sur ces questions. Et moi, j'espère vraiment que l'Oncopole et le CHU vont être les premiers sites français à être véritablement considérés comme zéro mégot et impacter le reste de la France.
Écoutez-moi, avec grand plaisir de pouvoir accompagner, je ne sais pas, Radio Présence, d'être acteur avec vous. Ça, c'est un autre sujet, mais avec grand plaisir. Pardon.
La différence avec l'Espagne, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu des choses, des réglementations qui ont été appliquées en France de manière très abrupte, sans accompagnement. Mm-hmm. En France, il y a besoin d'avoir un middle, d'avoir un milieu entre l'interdiction et la permission. Donc là, les hôpitaux qui ont commencé à appliquer ces décrets en France vont un peu rétropédaler et faire une forme d'accompagnement. C'est pour ça que nous, on les accompagne aussi dans cette démarche-là. Mm-hmm. C'est qu'il faut quand même une certaine transition, il faut que ça se fasse par étapes, mais ça peut se faire. Effectivement, on peut avoir des résultats similaires qu'en Espagne.
Oui, parce que là, on est en plein sur le sujet aussi, donc pollution, donc nature et santé, où ça impacte. Qu'est-ce qui pourrait être donc réalisé pour que justement il y ait un frein, on va dire, ou chacun fasse son colibri, je ne sais pas.
Ça ne peut pas être un colibri, sinon c'était la même chose pendant le confinement. Moi, s'il n'y avait pas une réglementation dans le confinement, je serais sortie comme je voulais, je ne serais pas restée enfermée chez moi. Et les mégots, c'est la même chose. Sauf que les mégots, c'est encore géré par les services propreté de Toulouse Métropole. C'est encore géré par les services propreté d'un hôpital. Et on n'est plus du tout dans la question de la propreté, on est dans une question de santé publique. Un seul mégot, c'est 2500 substances toxiques, 90 qui sont cancérigènes, qui se retrouvent dans notre eau potable. Et c'est impossible de les enlever de notre eau potable. Mmh. Et 400 000 mégots ramassés en une journée dans Toulouse en 2 heures de temps, s'il y a la moindre pluie, ça veut dire que ça se retrouve dans notre eau potable. Mmh. C'est une question de santé publique. Et c'est la raison notamment pour laquelle, depuis 2 ans, l'OMS a créé une alerte sur le sujet en disant que ça flingue notre écosystème. On a rencontré il y a quelques jours une scientifique à Barcelone qui étudie l'infinitésimale, c'est-à-dire même pas la quantité d'un mégot, mais des nanogrammes de nicotine, et qui va montrer que ça va un impact, quelques picogrammes de nicotine vont avoir un impact sur la croissance, sur la fécondité, sur la couleur, sur le stress du poisson. C'est énorme. Pas un mégot, un picogramme. Et un picogramme...
Attendez, picogramme, juste pour nos auditeurs, que vous puissiez effectivement le définir pour que ça soit bien effectivement compris. Parce que comme vous dites, ce n'est pas juste un mégot, c'est simplement de définir picogramme.
Vous avez un gramme, vous le divisez par 1000, vous redivisez par 1000, vous redivisez par 1000. Vous avez un picogramme. Okay. Déjà, un gramme divisé par 1000.
Ça parle, on va dire ça. C'est quand même déjà important,
C'est en ça où ses travaux sont hyper intéressants, parce qu'elle a travaillé sur le glyphosate, sur la nicotine, sur les insecticides. Et, elle, sa passion, en fait, c'est d'aller chercher le picogramme, à quel point, en fait, la réglementation de l'ARS, par exemple, dit qu'il ne faut pas que telle molécule dépasse un tel seuil, en fait, sinon l'eau n'est plus considérée comme potable. Mais elle étudie sur ces molécules un seuil qui est complètement... Et ça a un impact fou sur la croissance d'un poisson. Et du coup, en fait, dans ses conclusions, c'est de dire que les seuils français, on devrait vraiment les réévaluer beaucoup plus proche de la réalité. C'est-à-dire qu'on consomme tous les jours une eau potable qui, dans d'autres pays, comme le Danemark, les États-Unis, par exemple, Grenade. L'eau de Grenade, en France, elle est considérée comme potable. Tout va bien, elle est dans le vert. Si on utilisait les seuils des États-Unis, elle serait dans le rouge, archi-rouge, en matière de PFAS, par exemple.
Mais en France, justement, sur ça, parce que là, c'est quand même sur un sujet fort, mais en France, qu'est-ce qui fait quoi ? On n'est pas suffisamment avant-gardiste, on n'est pas suffisamment visionnaire.
On ne l'est pas du tout.
Bon, moi, comme ça.
Le citoyen l'est. Pour moi, le citoyen l'est.
Je parlais de colibri, je suis têtu, hein, vous savez. Donc là-dessus, c'est la Normande qui vous parle. Mais justement, colibri, je me dis peut-être que... Donc on est plus engagé, et on s'est mis... Il y a eu un help, on va dire ça comme ça, et que chacun joue quand même son rôle, beaucoup plus que les collectivités.
Si vous prenez par exemple les chiffres, ils sont hyper intéressants. En plus, c'est des chiffres de la métropole. Du coup, c'est des chiffres qui vont concerner la pollution de l'air, qui vont concerner notre consommation en énergie, notre consommation en déchets, nos modes de déplacement. Du coup, avant Covid, on est dans le rouge, archi-rouge sur la métropole toulousaine. Arrive le Covid, on est tous confinés, on ne peut plus bouger. Les chiffres vont dans le vert d'une manière hallucinante. Et moi, je n'ai pas compris en regardant ces chiffres, parce qu'en fait, après le confinement et après le Covid, les chiffres sont restés dans le vert. On n'est jamais remonté. C'est-à-dire qu'il y a des comportements dans nos modes de déplacement, dans notre consommation en viande, etc., qui ne sont jamais revenus. Et on le voit d'autant plus dans la ville de Paris, où en fait, grâce aux pistes cyclables installées par la ville de Paris, on a 50% de la population qui prend son vélo désormais. La qualité de l'air de Paris, elle n'a jamais été aussi bonne. Et du coup, on a un citoyen qui est complètement avant-gardiste, qui a pris les devants. Les chiffres sont complètement évidents. Et on a des politiques qui vont dans le sens inverse, qui réintroduisent des glyphosates, qui reviennent en arrière sur l'agriculture biologique. Et c'est eux qui nous retardent. Eux, ils sont sur l'autoroute, mais à contresens.
Donc, le citoyen est à l'heure, on va dire, et même demandeur et conscient de ce qui se passe, et certainement peut-être aussi nouvelle génération, les enfants, la transmission, parce que c'est des mots clés, moi, en tant que même maman, moi, je vois que c'est ça aussi que je veux faire passer. Mais ça veut dire qu'à ce niveau-là, il y a une prise de conscience réelle. Mais territoire, pourquoi ne le sont-ils pas ? Puisque c'est à chaque fois, on parle de justement citoyens, pédagogie, de pouvoir aller plus loin sur les sujets. C'est quoi ? C'est un bel artifice tout cela. Qu'est-ce qui fait que pourtant, c'est quand même un plus à apporter ? Parce que vous disiez justement au niveau santé, c'est important.
Les oncopoles, les spécialistes de l'oncopole, pour vous dire que ça fait 15 ans qu'ils envoient les dossiers au ministère et qu'il n'y a jamais de retour. C'est pas. Enfin, après, on va rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre du politique, mais c'est pas Bayrou qui a modifié la ville de Pau en profondeur. On va pas.
Alors là, on va pas aller sur ce chemin, même si j'avoue que c'est très tentant. En revanche, vous savez bien que moi, les émissions, c'est d'être constructif. Alors, je sais que toutes les deux, vous êtes pragmatiques, même il y en a une qui est plus pragmatique que l'autre. Mais par rapport à ça, sur votre duo, pour qu'on soit constructif, s'il doit y avoir un message là. Ah ben c'est pour effectivement cette évolution. Qu'est-ce qui a été positif ? Alors, l'Oncopole, je l'entends. Les actions qui ont été menées. Est-ce qu'il y a plus de bénévoles aujourd'hui ? Est-ce que vous en avez besoin de supplémentaires encore et toujours ? Donc, sinon, ça peut être effectivement ce message-là. Et là, je parlais tout à l'heure justement de pollution, nature et santé, sur lequel je veux quand même insister. Est-ce qu'il y a quand même une évolution à ce niveau-là? Vous parliez tout à l'heure des entreprises. Est-ce que maintenant le salarié lui-même, en tant que bénévole, s'implique sur des sujets comme ça, ou est-ce que les leaders de boîte les impliquent sur des sujets comme ça? On va mettre les politiques et collectivités de de côté? Question.
En étant positif, justement, ce qui a été assez surprenant ces dernières années, c'est que c'est justement les salariés qui proposent des actions à leur entreprise.
Ah, voilà, c'est ça que je voulais entendre. Voilà.
Et ouais. C'est génial parce que c'est des bénévoles super. Qu'on a le dimanche sur le terrain qui ont tellement pris une forme de plaisir aussi dans ce qu'ils faisaient, dans le résultat que ça pouvait apporter, qu'ils le proposent à leur manager ou à leur DRH. Et après, ils nous appellent. Donc ça, c'est quand même très bien. On a de plus en plus de demandes chaque année des entreprises qui veulent investir leurs salariés dans le volontariat. Donc c'est, pour nous, c'est plusieurs centaines de personnes en même temps sur une même action. Donc super. C'est extrêmement parlant, surtout qu'on retire des quantités quand même... même s'il y a des personnes qui sont un peu réfractaires à l'idée, parce que ce n'est pas des gens qui viennent spontanément le dimanche, c'est à la demande de l'entreprise. Donc il y a quand même... le prix, c'est différent. Mais s'ils se prennent, et c'est les premiers à se jeter sur les déchets et qui ne veulent plus
même
en laisser une seule.
Des entreprises, en fait, on bénéficie de mécénat de compétences aussi. On a beaucoup de salariés qui veulent venir dans l'asso et qui nous apportent des conseils. Il y a Madaré, qui est une boîte de communication sur Toulouse, qui nous aide beaucoup en termes de communication. C'est des salariés qui vont aussi, et des entreprises qui vont nous pousser à aller beaucoup plus loin dans les ateliers. Elles veulent qu'on aille faire un atelier tous les ans, et du coup, l'atelier doit être de plus en plus poussé. Elles vont nous pousser également dans les rapports qu'on a avec les scientifiques.
Mais vous imaginez quand même, alors je sais que vous n'aimez pas les félicitations, etc., les mises en avant, mais quand même, de crédibilité, légitimité, tout ce que vous avez pu transmettre et faire avancer, vous bousculer, vous aimez bien cela, c'est vrai, avec du concret, avec les actions que vous menez. Mais vous imaginez là maintenant qu'on vient vous chercher, alors côté santé, entreprise, les RH qui viennent vous chercher, donc le message que vous avez fait passer est entendu, reconnu et s'est rentré maintenant dans un schéma obligatoire, d'accord ? Donc c'est quand même assez fabuleux d'avoir ça aujourd'hui. Maintenant, sur effectivement, vous disiez les associations, les salariés, au niveau de ces personnes, comment sont-ils avec vous ? C'est-à-dire qu'ils vont être après porteurs à droite à gauche d'être vos ambassadeurs au niveau de champ d'action, ou c'est sur une opération, qu'on pourrait dire ça, unique, ou est-ce qu'il y a une fidélité sur les actions et par rapport à d'autres actions que vous allez faire, vont vous suivre? Oui. Ce que je veux dire, c'est un peu, j'ai l'impression quand même que là-dessus, c'est une grande communauté là, que vous avez mis en place, quoi, ben, qui a multiplié par 10 au niveau de ce que vous lancez sur champ d'action là, sur ces deux années. C'est extraordinaire.
Ce qui est génial, c'est que non, pas du tout, mais on a des partenaires qui sont fidèles, qui sont là depuis plusieurs années, et des nouveaux qui nous découvrent chaque année et qui tombent sous le char de nos activités. Et effectivement, on a 50% de... Alors, ce qui est intéressant dans les structures, c'est de les suivre année après année, c'est de voir leur propre évolution sur la démarche au sein de leur entreprise. Et c'est d'avoir ce vivier d'échange d'idées, de RSE et de pratiques au sein de les sociétés. Parce qu'on brainstorm avec eux, on fait des ateliers aussi, c'est-à-dire qu'on est sur les berges, on a des actions sur les berges, mais on est aussi maintenant un peu plus en dehors dans une forme d'accompagnement des entreprises dans leur propre démarche RSE. Parce qu'on brasse tellement de sociétés différentes, de manières de faire différentes, que ça nous a énormément enrichi sur les pratiques. Donc on est en mesure aussi de communiquer et de partager aussi ce qui a marché ailleurs, ce qui a besoin, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, ce qu'il faut mettre en place pour que ça puisse marcher. Mais il y a toujours énormément d'axes à mettre en place, beaucoup de choses à mettre en place en fait, finalement.
Et au niveau de, si on fait le lien pareil, alors là on parlait effectivement des entreprises, je parlais tout à l'heure de pédagogie, au niveau dans les lycées et autres, ou même dans des écoles, alors je ne dis pas que forcément dans les bachelors ou autres, mais sur le fait d'être plus impliqué et que l'environnement reste un sujet, qu'à la limite il y en a qui se dirigent. Alors, sans faire les études élitistes, vous voyez, mais qui aillent sur ces sujets, est-ce qu'il y en a de plus en plus? Est-ce que vous êtes en lien avec ces personnes qui font que, ben voilà, oui, l'environnement est un sujet fort, impliqué, si vous avez envie de répondre hein, par rapport à cela, parce que je vois que, pareil, de transmission, c'est aussi dans les études, les profils de vie. Vous parliez de la RSE là, il y a 5 minutes. Ça peut être effectivement un sujet aujourd'hui qui intéresse... la nouvelle génération.
Énormément, et puis c'est des chemins qui restent encore à faire aussi. C'est-à-dire que plus on découvre, la science avance beaucoup sur le domaine. Donc, effectivement, les écoles aussi, sur certains, on a eu des stagiaires, effectivement. Le dimanche, on a des écoles, on a des personnes qui sont complètement investies. Et on a des enfants maintenant, c'est plutôt rigolo parce qu'on a des enfants. C'était l'histoire du bénévole.
Oui, après, c'est aussi ce qu'on a essayé de faire sur le terrain. C'est-à-dire qu'on veut pas... nous-mêmes, on a évolué dans l'association. On a toujours un cœur d'action qui est le terrain. Mais on mène des ateliers, des conférences. On travaille avec beaucoup de chercheurs, beaucoup de sciences participatives. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a un jeune bénévole qui a 8 ans. Il fait plusieurs années qu'il nous suit. Et en fait, ils étaient en train de parler de ça de manière très simple avec sa maîtresse. Et lui, il a commencé à parler d'écotoxicité, de nanoplastique, de PFAS. Et sa maîtresse, elle a halluciné. Et chez toutes les personnes qu'on rencontre, et c'est d'autant plus vrai sur les réseaux sociaux, et ça marche beaucoup plus avec cette génération sur les réseaux sociaux, c'est de les questionner, en fait. C'est aussi beaucoup de les questionner sur leurs pratiques et leurs habitudes. Parce que, mine de rien, c'est une génération qui utilise beaucoup Internet, qui utilise beaucoup ChatGPT, qui a l'habitude de tout commander de son canapé, commande ses vêtements sur Shein ou sur Temu. Oui, c'est un désastre écologique. C'est un désastre écologique. Et c'est les questionner sur ses pratiques, parce que c'est à la fois la génération qui est la plus alerte sur le sujet et qui a complètement conscience qu'elle fonce dans le mur. C'est une génération qui a 20 ans. Et à 20 ans, on est censé être insouciant. Et il y a une espèce de... C'est une génération, pour moi, qui est paradoxale entre son mode de vie journalier, qui est fou pour la planète, et la connaissance qu'elle a du sujet. Et elle fait le grand écart. Pour moi, la génération qui est le plus investie, c'est vraiment la génération 30-40 ans. C'est celle qui a... Et c'est aussi horrible de demander à la génération de 20 ans de porter ça.
En même temps, et qui comprend aussi un peu plus ce futur. Mais malheureusement, on va arriver à la fin de l'émission. Et je sais que vous aimez bien, personnellement, mais pas que moi, hein, attention, hein, mais vos mots de fin. Donc là, je vous laisse la parole, mais malheureusement, on arrive à la fin.
Eh bien, en fait, c'est de dire qu'on n'a aucune idée de l'impact qu'on a sur la Garonne. Aucune. Il n'y a aucun scientifique actuellement qui est capable de mesurer l'impact qu'on a sur la Garonne. On va tous se poser quai de la Lourade, on va regarder la Grave, on va regarder le Pont-Neuf, et on a l'impression de vivre une carte postale. C'est-à-dire qu'on a l'impression de vivre la même chose qu'il y a 200 ans, mais absolument pas. On a un fleuve qui est archi-pollué, c'est une pollution qui est invisible. C'est une pollution par les mégots, par les PFAS, par les microplastiques, par les rejets industriels, par les rejets individuels, par les pesticides, par les insecticides. Tout ça, c'est dans la Garonne, par millions de molécules chimiques organiques. Et c'est jeté direct dans nos rivières, direct, sans aucune barrière de protection pour nos écosystèmes. Et ça fait un effet cocktail qui est complètement fou. On ne le mesure pas. La bombe atomique à côté, c'est de la nounougrie sur ce qu'on est en train de faire sur nos rivières. Et il faut réaliser que sur des petites rivières toulousaines comme l'Hers, le Touche, la Marquessonne, en 20 ans, on a perdu combien de poissons, à votre avis ?
Voilà. Non, je ne saurais même pas répondre parce que je vais me planter complètement.
90%. En 20 ans, on a perdu 90% des poissons de ces rivières. Dans 20 ans, il n'y en a plus un seul. 90%. Et c'est de dire qu'on ne mesure pas son impact individuel sur la Garonne individuellement et qu'on voit la Garonne de la même manière qu'on le voyait il y a 200 ans parce qu'elle n'a pas changé. Et pour autant, tous les jours, il y a 1,4 million de personnes qui vivent en Haute-Garonne et il y a 1,4 million de personnes qui vont utiliser telle lessive, tel produit ménager, telle peinture, tel lasure pour son jardin. Et on a des millions de molécules chimiques qui arrivent dans la Garonne tous les jours. Et ce n'est pas cette malheureuse usine de dépollution de l'eau potable de Pêche David qui va enlever ces molécules. Et du coup, ce n'est pas anecdotique, individuellement, d'aller vers des produits beaucoup plus sains et de mesurer l'impact que ça a sur notre santé. Okay. Dernier chiffre, vous êtes chez vous, vous utilisez un seul de ces produits, il y en a des milliers, des centaines chez vous, un seul de ces produits se retrouve sur votre peau, ça va mettre une minute à atteindre votre foie. Une minute. Si vous ne mettez pas de gants pour faire la vaisselle, si la lessive arrive sur vos mains, ces molécules, dans chaque produit, il y en a une qui va arriver dans votre foie et dans tous les organes de votre corps.
Bien, et une phrase de fin quand même. Alors, j'entends bien l'alerte, mais la phrase de fin, je vais la garder pour moi et la partager avec les auditeurs. Champ d'action, on vous trouve sur Instagram. Vous avez un compte de le suivre, s'ils n'ont pas encore participé, de venir, de voir effectivement toutes les actions que vous avez multipliées, mais toute cette croissance que vous avez mise en place, moi je vous félicite vraiment franchement toutes les deux, Parce qu'il y a quand même si vous dites il y a encore ça, oui, mais vous avez mis beaucoup de freins. Donc là-dessus, grâce à ça, ça a permis de mettre en alerte énormément de monde. Donc merci infiniment d'être venu à nouveau et de vous mettre effectivement à l'antenne. Et tout le message que vous transmettez, où qu'il soit, je suis ravie de pouvoir effectivement contribuer à cela. Et merci infiniment à vous deux.
Merci à vous. Merci.
Merci en tout cas, chers auditeurs, à la semaine prochaine.